Info Weekend, c'est avec vous, Isabelle Peltier.
Marie Guévenoux a quitté hier le territoire. La ministre déléguée aux Outre-mer a déclaré que les Calédoniens devaient retrouver les voies d'un destin commun. La CCAT, la cellule de coordination des actions de terrain, a dressé dans un communiqué le bilan de son assemblée générale du week-end dernier. Elle annonce notamment la poursuite d'une mobilisation qu'elle qualifie de pacifique. La taxe sur le sucre décalée d'un mois au 1er septembre, cet impôt dit comportemental va générer une augmentation de 5 à 25% des produits sucrés. Les parcs provinciaux zoologiques et forestiers et des grandes fougères rouverts à partir de mercredi prochain pour les vacances scolaires. Les boucles de Tinael rouvrent à compter d'aujourd'hui. Échange historique de prisonniers entre la Russie et plusieurs pays occidentaux. Un journaliste américain et un espion russe ont notamment été libérés. Et puis les JO, plus de médailles pour le camp français avec notamment la natation et le vélo avec le BMX. En judo, Teddy Riner remporte un troisième sacre. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Les mesures de couvre-feu prolongées sur l'ensemble du territoire. La décision a été prise hier par le haut-commissaire qui précise que le couvre-feu restera en vigueur de 22h à 5h du matin jusqu'au lundi 12 août. La vente et le transport d'alcool restent interdites sur l'ensemble du territoire pendant cette période, y compris chez les cavistes. Le haut-commissaire précise également que les forces de l'ordre ont procédé à ce jour à 2235 interpellations et que depuis le début de la crise, plus de 67 000 mètres cubes de carcasses et déchets ont été déblayés des voies de circulation. Marie Guévenoux a donc quitté le territoire au terme d'une visite de 36 heures hier, pendant laquelle elle avait annoncé qu'elle souhaitait prendre une posture d'écoute. Arrivée mercredi soir, elle s'est d'abord entretenue avec la présidente de la province sud, Sonia Baquès, avant d'échanger longuement avec les forces de l'ordre et de sécurité réunies au commissariat central de Nouméa. Hier, jeudi, elle a rencontré les groupes politiques au Congrès. Vous avez pu entendre la réaction de certains d'entre eux dans nos précédentes éditions. L'un des derniers groupes reçus a été l'UNIPALICA, l'un des membres de la délégation Jean-Pierre Djaïwé nous a dit qu'ils avaient rappelé à la ministre la responsabilité de l'État dans la gestion du dossier calédonien et évoqué aussi la situation générée par les émeutes du 13 mai.
Ce qui s'est passé ici en Nouvelle-Calédonie relève d'une responsabilité collective, aussi bien de l'État que des responsables politiques de tous bords, indépendantistes comme non-indépendantistes. On est tous responsables de la situation que nous avons connue ces derniers temps, certainement avec des degrés divers. Mais il faut le reconnaître, c'est une responsabilité collective. Et à partir de ça, c'est à nous tous, les responsables, tous les responsables calédoniens, les institutions, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, les autorités coutumières et bien évidemment la population, nous devons tous nous retrousser les manches pour reconstruire notre pays.
La Calédonie n'a pas les moyens de reconstruire pour l'UNIPALICA qui a remercié Marie Guévenoux pour l'argent déjà débloqué par l'État. Mais il aura besoin de plus, a dit Jean-Pierre Djaïwé, et seul l'État pourra aider. Reste la question de la suite.
La grande question, et c'est vraiment la grande question que l'on doit se poser tous, c'est bien de reconstruire avec l'argent du contribuable. Pour nous, ici en Nouvelle-Calédonie, les contribuables calédoniens, s'il y a des aides de la France, le contribuable français. On va reconstruire. Mais est-ce que ce qu'on va reconstruire, ça ne va pas être encore détruit demain? Et donc la question, c'est, est-ce qu'on reconstruit quelque chose de solide, quelque chose de durable? Et ça, la réponse, elle est politique.
L'UNIPALICA plaide toujours, comme la délégation l'a rappelé à Marie Guévenoux, pour une indépendance en partenariat avec la France. Toujours dans l'actualité politique, la CCAT, la cellule de coordination des actions de terrain, dresse dans un communiqué le bilan de l'Assemblée générale qu'elle a réunie le week-end dernier à Point-d'Imy, Mika Juneski.
Oui, dans ce communiqué, la CCAT annonce la poursuite de la mobilisation qu'elle qualifie de pacifique tant que le sujet du dégel du corps électoral n'est pas une bonne fois pour toutes aboli. Elle indique également que des actions spécifiques seront menées chaque 13 du mois pour, et je cite, commémorer le 13 mai, date du départ de la révolte. Concernant le mouvement indépendantiste, elle demande la tenue d'un congrès du FLNKS impérativement avant la fin août. Un congrès qui devra être ouvert à tous et qui devra reconnaître la CCAT comme structure de terrain. La CCAT propose d'ailleurs la candidature de Christian Théin à la présidence du FLNKS, tout en indiquant que la gouvernance du front, qui a été jugée défaillante, est un sujet primordial. La CCAT se positionne également pour le maintien des projets prochaines élections provinciales sur le corps électoral actuel pour renouveler et rajeunir l'ensemble de la classe politique calédonienne. Et elle réclame la libération de ses militants emprisonnés.
C'est Philippe Blaise, élu Les Loyalistes, président du MRC et premier vice-président de la province sud, qui était hier midi l'invité d'Elisabeth Noir dans le magazine Transparence. Il a été interrogé sur l'analyse qu'il fait de la situation de la Nouvelle-Calédonie depuis le 13 mai, sur les urgences, sur les préoccupations et sur les solutions pour en sortir. Il déclare notamment que ceux qui sont pour la construction doivent l'emporter sur ceux qui sont pour la destruction et qui sont minoritaires. Et il appelle à l'unité des partisans de la France. Une interview de Philippe Blaise qui sera rediffusée demain soir juste après notre édition de 17h45. Elle est aussi disponible en audio et vidéo sur notre site internet. Mais ce matin, à partir de 11h, nous vous proposons la rediffusion du club politique de Radio Rythme Bleu. Au sommaire, un point de la situation sur le terrain, notamment sur le Mont-d'Or Sud, mais aussi un retour sur la brève visite de Marie Guévenoux, la ministre déléguée en charge des Outre-mer. Les consultants du club ont également tenté de décrypter la démission du Sénat coutumier d'Hippolyte Sinewami, le président du Conseil des grands chefs, et de ses projets pour le 24 septembre. Ils ont enfin évoqué la situation politique nationale avec un gouvernement démissionnaire et sont revenus sur la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris et sur les réactions qu'elle a suscitées. Le club politique de Radio Rythme Bleu qui est également disponible en audio sur le site internet de RRB. Au chapitre des faits divers, jeudi matin, une société de pompes funèbres a été rackettée à la hauteur de la tribu de Saint-Louis. Elle avait été appelée pour aller récupérer un corps au Mont-d'Or Sud. Après un arrêt à la gendarmerie de Saint-Michel pour vérifier si l'axe était praticable, le camion a emprunté la RP1 sans incident. C'est au retour que le transporteur a été arrêté par des individus qui ont exigé de fouiller le camion frigorifique. Ils ont même été jusqu'à ouvrir la housse mortuaire pour vérifier qu'il s'agissait bien d'un corps qui était transporté. Les malfaiteurs ont ensuite racketté les employés en leur demandant leur argent. Une plainte a été déposée pour violation de sépulture. Et puis le parquet de Nouméa a ouvert une enquête après la découverte samedi matin du corps d'un homme de 62 ans qui présentait de très graves lésions selon le rapport d'autopsie qui précise que la victime était très fortement alcoolisée. Ses blessures sont compatibles avec la thèse d'une collision avec un véhicule. Des recherches sont en cours pour tenter d'identifier la voiture et son conducteur. 7h07, nous marquons une première pause dans ce journal avant de développer la suite de l'actualité locale. On parlera notamment de la taxe sur le sucre dont l'entrée en vigueur a été reportée d'un mois. À tout de suite.
Mazda informe son aimable clientèle de l'ouverture de la concession de 8h à 15h à Magenta, rue Auguste Bénébig. Arrivage récent du nouveau Mazda CX-90, un autre monde, une autre dimension.
Vous rêvez d'une nouvelle cuisine? DCSM vous propose des cuisines à votre style, adaptées à votre intérieur. DCSM, c'est des cuisines de qualité pour tous les budgets.
Venez découvrir votre future cuisine dans notre showroom, 5 route de la Baie des Dames à Ducos, 27 74 20 ou sur Facebook.
RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
La suite du journal, Isabelle Pelletier.
La mise en place de la taxe sur le sucre a été décalée d'un mois. Elle devait s'appliquer au 1er août. Elle devrait finalement être opérationnelle au 1er septembre, après un mois de marche à blanc, Mickaël Juniski.
Les entreprises ont fait remonter au gouvernement qu'elles ne seraient pas prêtes au 1er août. L'exécutif a finalement préféré une marche à blanc à un report. Les professionnels ont également indiqué que l'inflation générée par cette taxe, qui serait de 5 à 25%, n'était peut-être pas opportune en ces temps de crise. La taxe est calculée en fonction du taux de sucre contenu dans chaque produit. Seront touchés aussi bien les produits locaux que les produits importés. Les précisions de Xavier Benoît, le président de la FINC.
On avait expliqué au gouvernement que depuis plusieurs semaines, outre que c'était inopportun dans le contexte que connaît la Calédonie actuellement, on avait encore des réglages techniques à faire et que ce n'était pas une priorité pour les entreprises, donc qui n'étaient pas prêtes au 1er août. Donc on avait demandé effectivement un report qui n'a pas été accepté par le gouvernement, mais on a réussi à se mettre d'accord sur le fait qu'on ait un mois de marche à blanc pour se caler techniquement, régler des problèmes techniques, et puis donc que ce soit opérationnel au 1er septembre. On devrait pouvoir tenir des objectifs maintenant. Je pense qu'on aura encore au moins une ou deux réunions de calage avec les administrations du gouvernement de la Calédonie. Donc ça, on devrait y arriver. Après, sur l'opportunité dans le contexte de crise, on fera un point de situation aussi au gouvernement. Et puis, on aura des échanges pour voir si c'est tenable ou pas pour le consommateur calédonien.
Pour mémoire, la taxe sur le sucre est un impôt dit comportemental. Il vise à faire baisser la consommation des produits très sucrés en augmentant leur prix dans un contexte sanitaire où plus de 10% de la population est atteinte d'un diabète de type 2. Les produits comme le lait, les yaourts ou encore les jus de fruits naturels sans sucre ajouté pourraient aussi être touchés par cette taxe. Ils font partie des ajustements encore à discuter.
Selon la dernière note de conjoncture de l'ISEE, les échanges commerciaux à l'importation comme à l'exportation sont en baisse de 30% au deuxième trimestre 2024, Mickaël.
Les émeutes déclenchées le 13 mai dernier qui se cumulent à la crise du nickel ont lourdement impacté les échanges commerciaux du second trimestre, précise l'Institut de la Statistique et des Études Économiques. Alors que le mois d'avril était stable pour les importations et en hausse de 46% pour les exportations, les mois de mai et juin enregistrent des baisses en valeur de plus de 40% à l'import et de 60% à l'export. De leur côté, les ventes des produits du nickel diminuent de 30% au deuxième trimestre et entraînent une baisse des exportations d'une valeur similaire. La baisse des importations concerne toutes les familles de produits, parmi lesquelles les plus impactées sont les machines industrielles et les voitures, les combustibles, les pneus et les matériaux de construction. Les autres catégories de produits importés, parmi lesquelles les produits alimentaires transformés et les produits frais ou congelés, affichent une baisse de 6 à 35%.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. La réponse à notre question d'hier, 79% des auditeurs de RRB qui se sont exprimés par SMS se disent favorables à l'instauration d'un jour de carence dans le secteur public, comme le propose le gouvernement, avec pour objectif la maîtrise des dépenses de fonctionnement dans le secteur public. Ils sont 21% à dire qu'ils n'y sont pas favorables. Merci pour votre participation et rendez-vous lundi pour une nouvelle question du jour. Le parc provincial zoologique et forestier rouvre ses portes mercredi prochain pour les vacances scolaires. C'est la première fois depuis le 12 mai dernier. Le dernier inventaire a fait apparaître la disparition de 8 animaux, 2 cerfs, 5 roussettes noires et une grue du Japon manquent à l'appel. Les faits remonteraient au début des émeutes. Les animaux, notamment de ferme, ont été déplacés pour les mettre à l'abri et les mesures de sécurité ont été renforcées. Une plainte a été déposée. L'enquête suit son cours. Les précisions de Marianne Bonzon, responsable du parc provincial zoologique et forestier.
Il y a eu des exactions au tout début des émeutes, hein. Ça correspond à peu près à 0,5% de la collection, environ 8 animaux qui ont disparu, puisqu'on ne les a pas retrouvés. Pour ça, donc, la province, avec le concours de l'équipe, a pu mettre en place quelques mesures de sécurité du site, hein, avec un prestataire de service, hein, une société privée. Il a permis du coup de garantir la sécurité du site, des bâtiments publics, mais aussi de nos pensionnaires. Et tout ceci a porté ses fruits, en fait, et a permis justement de pouvoir passer le plus fort de la crise. Et de notre côté, l'équipe des soigneurs, qui n'a jamais arrêté les soins depuis le 13 mai, hein, les soigneurs sont tous les jours venus s'occuper des animaux sans relâche. On a pu faire aussi des transferts d'animaux pour les mettre plus en sécurité, et puis pour leur bien-être aussi. Ces modifications au sein même du parc sont encore d'actualité, puisqu'on n'a pas remis les animaux au lieu habituel, mais les gens pourront les retrouver au sein du parc dès mercredi prochain.
La province sud a souhaité jusque-là rester discrète sur la disparition de ces animaux de manière à ne pas donner d'idées à des personnes malveillantes, tout en accentuant la sécurisation du PPZF. Le parc provincial zoologique et forestier sera donc ouvert du mercredi au dimanche de 9h à 16h durant la période des vacances scolaires. Mêmes horaires d'ouverture pour le parc des Grandes Fougères. Des horaires modifiés pour l'occasion. Toutes les infos sont à retrouver sur le Facebook de la province sud. La réouverture également ce week-end des boucles de Tina à l'occasion des vacances scolaires toujours, la province sud annonce que le site rouvre à partir de ce samedi, 8h, compte tenu des dégradations subies. Le parking des voitures, les sanitaires, les installations de rinçage des vélos restent fermées. En revanche, les 7,5 km de pistes cyclables, les plus de 26 km de pistes de VTT, le bike park et le pump track sont accessibles. Un balisage spécifique est mis en place à l'entrée du site. L'actualité festive de votre week-end avec d'abord Sarah Mégerie, un marché solidaire à Païta.
Des stands gratuits sont proposés pour aider les commerçants victimes d'exactions à écouler leurs produits. Un moyen de redynamiser l'économie de la commune et de permettre aux habitants de Païta de se retrouver. C'est un marché ouvert aux particuliers, aux petits producteurs. Il sera proposé tous les vendredis et samedis du mois d'août sur la place du marché municipal de Païta. Le prochain rendez-vous, c'est ce matin et jusqu'à midi.
À Dambéa, le marché municipal revient ce matin aussi, c'est de 8h à 13h.
Il aura lieu au Parc Fayard, retrouver des produits frais agricoles, d'artisanat et de gastronomie. Il y aura également un espace vide-grenier et des animations. L'entrée est libre et gratuite.
Et puis à Pointe-Boute, le centre d'initiation à l'environnement organise un chantier participatif, c'est à la forêt sèche de Tipengano.
Chantier ouvert ce matin de 8h à midi, inscription et renseignements au 42 34 46. Et enfin à Nouméa, l'association Droit au vélo Nouvelle-Calédonie organise aujourd'hui à Sainte-Marie une bourse au vélo, l'occasion de vendre un vélo qui ne sert plus ou bien de dénicher une bonne affaire. Les vélos sont à déposer de 8h30 à 9h30 et un entretien minimum sera proposé par l'association. Les ventes démarrent à 9h30 et se terminent à 15h30.
À Nouméa toujours, le festival Olympard propose deux jours d'animation ce week-end au skatepark de Sainte-Marie, un événement organisé par le groupement d'employeurs Sport et Loisirs Sud qui propose ce samedi et dimanche de découvrir les nouvelles disciplines olympiques issues de la culture urbaine, les précisions d'Antoine Delia, le directeur du groupement d'employeurs Sport et Loisirs Sud.
On est parti sur tout ce qui était le côté urbain, donc tous les nouveaux sports que l'on retrouve aux Jeux Olympiques comme le breakdance, le skateboard, le BMX, voilà, d'un côté, et puis donc lier tout ça au street art, donc du graph, du slam, du rap, du slackline, voilà, plein d'autres sports d'activité qui sont issus de la rue. Donc on a entre 10 et 12 activités qui seront mises en place toute la journée. Et pour chaque activité, il y aura des moments d'initiation. Petits et grands, vous pouvez venir vous initier, apprendre à faire de la slackline ou autre, du basket 3-3 par exemple. Et puis après, il y aura des démonstrations. Donc des démonstrations, par exemple le basket, justement, il y aura l'équipe de Calédonie qui sera là avec des entraînements des U23. Et puis après, des démonstrations, que ce soit en parcours, en workout ou autre.
Le festival Olympard, c'est ce week-end de 8h30 à 17h et c'est au skatepark de Sainte-Marie. 7h17, nous marquons une seconde pause dans ce journal avant de développer l'actualité nationale et internationale. On se retrouve après une page de pub.
Le service des bourses et de l'enseignement supérieur de la Province Nord informe les jeunes ressortissants de la Province Nord désirant poursuivre des études supérieures en Nouvelle-Calédonie ou à l'étranger que la campagne de demande de bourse 2025-2026 a débuté depuis le 1er juillet 2024 et s'achèvera le 31 octobre 2024. Pour effectuer cette demande, les démarches se font toujours en ligne bourse.province-nord.nc.
Vous êtes un professionnel et recherchez une solution de mobilité qui correspond à votre besoin du moment? 6 mois, 12 mois ou plus, profitez de la flexibilité des offres LISCAR. Plus d'infos sur liscar.nc ou au 74 41 40. RRB, première radio d'information.
La suite du journal, Isabelle Pelletier.
Avec l'actualité dans le monde, un échange historique de prisonniers entre la Russie et plusieurs pays occidentaux, du jamais vu depuis l'effondrement de l'URSS. 26 ex-prisonniers ont pu regagner leur pays, dont le journaliste américain Ivan Gershkovitch. Le reporter du Wall Street Journal est arrivé à Washington avec d'autres, en échange notamment d'un agent russe secret détenu en Allemagne. Vadim Krasikov avait pourtant été condamné pour meurtre. Wilfried de Villers pour Europe.
Condamnation à la perpétuité après le meurtre en 2019 d'un ex-commandant séparatiste tchétchène, cible du Kremlin. Un assassinat en plein cœur de Berlin, à quelques pas à peine de la chancellerie. Lors de sa condamnation, les juges allemands avaient estimé qu'il agissait sous les ordres des autorités russes et cela faisait des mois déjà que Moscou pressait diplomatiquement pour sa libération. C'est d'ailleurs l'élément central de cet important échange de prisonniers. 26 au total. Vadim Krasikov est un membre du FSB, a officialisé hier le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, dès la libération de l'agent. Ancien du KGB, devenu commandant du FSB, il servait dans Alpha, une unité d'élite des services de renseignement russes, et était aussi proche des services de sécurité de Vladimir Poutine. Sa libération hier a été un arbitrage difficile pour l'Allemagne, selon le chancelier Olaf Scholz. Jusqu'à maintenant, Berlin se montrait réticent, mais dans cet échange, ce sont 5 prisonniers allemands qui sont désormais libres.
De son côté, Paris appelle à la libération de tous les prisonniers, parmi lesquels Paul Vinatier, le français membre d'une ONG suisse, reste détenu à Moscou après avoir été accusé d'espionnage en juin dernier. Aux États-Unis, Kamala Harris, candidate officielle des démocrates avant même la clôture des votes. La vice-présidente affrontera donc Donald Trump dans la course à la Maison-Blanche. Un couronnement éclair, moins de deux semaines après l'abandon de Joe Biden. Les démocrates ont annoncé en milieu de journée vendredi que la vice-présidente américaine, seule candidate en lice, avait recueilli le soutien de plus de la moitié des délégués pour son investiture lors du vote en ligne. La crainte d'une riposte iranienne après la mort du chef du Hamas, après ce jour de colère décrété par les terroristes du Hamas pour se venger de la mort de leur chef, Ismaël Haniyeh, tué à Téhéran dans une frappe attribuée à Israël. Alors, quand commence le Shabbat, dans quel état d'esprit se trouve la population? Ariane Ménaj, correspondante d'Europa en Israël.
Les Israéliens sont bien sûr inquiets et à la fois résignés face aux menaces de l'Iran et de ses vassaux, le Hezbollah en tête. Il n'y a plus qu'à attendre, me disaient des passants ici à Tel Aviv. Alors ils craignent tout de même des représailles qui pourraient être plus importantes encore que l'attaque iranienne menée contre Israël à la mi-avril. Ils s'attendent à une riposte menée simultanément sur plusieurs fronts. Alors depuis mercredi, certains Israéliens s'organisent. Ils font des provisions d'eau, de nourriture, s'équipent de batteries ou de générateurs. Aujourd'hui, les ministres du gouvernement israélien ont également chacun reçu des téléphones cellulaires qui peuvent donc fonctionner même en cas de frappe sur des infrastructures de communication. L'armée a, elle, renforcé les effectifs de sa défense aérienne, mais elle n'a, à ce stade, toujours pas mis à jour les consignes de sécurité à la population.
Ariane Ménaj, la correspondante d'Europa en Israël. Et en raison de cette escalade des tensions au Moyen-Orient et de l'annonce de ce jour de colère décrété par le Hamas, le ministre de l'Intérieur démissionnaire demande de renforcer la protection de la communauté juive. Le risque d'un passage à l'acte réel, c'est ce qu'a notamment déclaré Gérald Darmanin. Dans la région Pacifique, un organisme spécialisé dans la sécurité informatique a révélé que l'Australie était devenue la cible d'opérations de cybercriminalité de grande envergure. C'est la correspondance de Jean-Pierre Zajac.
La firme de cybersécurité Orange Cyberdéfense a révélé que les demandes d'extorsion des grandes entreprises australiennes ont augmenté de 61% au cours de ces 12 derniers mois et que ce chiffre n'est certainement que la partie émergée de l'iceberg, dans la mesure où nombre de sociétés, sans doute par crainte de représailles, n'en font pas état. À en croire la dite firme, 97 organisations australiennes ont été victimes de cyber-extorsion, notamment dans les secteurs des services professionnels, scientifiques et techniques. Celui de la santé a fait l'objet d'une attention toute particulière puisque les attaques le visant ont fait un bond de 33% en un an. Il est urgent que les sociétés australiennes adoptent un degré élevé d'automatisation pour garantir leur souveraineté technologique, a estimé Orange Cyberdéfense. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
7h22, nous marquons une dernière pause dans ce journal avant l'actualité sportive et puis bien sûr les JO. À tout de suite.
Spécial info jeu SMS sur RRB, le jeu du million 40-20 change de formule. Maintenant, c'est tous les 1500 SMS pile sur le compteur pour gagner 100 000 francs de bon d'achat à dépenser où vous voulez, comme vous voulez. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Alors pour jouer, envoyez RRB par SMS au 40-20. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 40-20. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 40-20. Bonne chance.
RRB toujours à vos côtés. Depuis le début des émeutes qui secouent la Nouvelle-Calédonie, les équipes de Radio Rythme Bleu se sont mobilisées pour vous informer, vous accompagner et pour faire vivre votre antenne.
Malgré l'insécurité, les tensions et les difficultés de déplacement, nous nous sommes engagés pour répondre à votre confiance et à votre fidélité.
Demain, comme aujourd'hui, comme hier, RRB sera toujours à vos côtés.
RRB, pour être les premiers et les mieux informés.
La suite du journal et c'est du sport, Isabelle Pelletier.
Oui, à la une de cette actualité sportive, on continue bien sûr de suivre les Jeux Olympiques de Paris 2024.
Les pages spéciales des Jeux Olympiques sur RRB avec la Banque de Nouvelle-Calédonie, partenaire premium de Paris 2024.
Ouais, les JO de Paris 2024 avec de nouvelles médailles pour le camp français, à commencer par la natation, Mickaël Junisky.
Oui, et le phénomène Léon Marchand qui a encore frappé. Le nageur a remporté un nouveau titre, son quatrième à Paris. Il s'est imposé en finale du 200 mètres 4 nages avec un temps d'une minute 54 secondes 6 centièmes. Léon Marchand qui, à l'âge de 22 ans, survole littéralement ces Jeux Olympiques.
On ne vit jamais ce genre de moment. En tant que sportif, en tant que nageur français, c'est incroyable, c'était magique, ouais, vraiment. Je pense que je suis très bon en termes de gestion d'énergie. J'arrive à être canalisé, j'arrive à garder mon énergie pour moi, même des fois en puiser des autres, ce qui est plutôt une bonne stratégie pour moi. Et là, c'est vrai que tout le stade est à fond derrière moi, mais je m'en sers et ça me permet de faire des perfs comme ça, de gagner 4 médailles en 4-5 jours, c'est pas trop quoi dire. Donc après, je fais une super course et ouais, je suis trop content.
Voilà pour ce nouveau titre donc de Léon Marchand, lui qui avait déjà remporté l'or sur le 200 mètres brasse, le 200 mètres papillon et le 400 mètres 4 nages. Et puis une autre médaille venue de la natation aujourd'hui, Florent Manaudou a lui remporté le bronze sur le 50 mètres nage libre. À l'âge de 33 ans, celui qui avait gagné l'or à Londres en 2012 a réussi à monter une nouvelle fois sur le podium olympique 12 ans après.
Ça, je sais que je vais le vivre qu'une seule fois dans une vie avec le public. Donc j'ai voulu profiter un max, il y a une médaille au bout, je suis content, mais l'objectif de cette saison c'était justement de pouvoir faire cette course là avec le sourire et bien la maîtriser, et c'est ça dont je suis le plus fier. La médaille c'est une double récompense, mais c'est vraiment tout ce qu'il y a avant ça qui m'émeut beaucoup.
Florent Manaudou, félicité par tout le public parisien et par le Calédonien Maxime Grousset, également engagé dans les épreuves aujourd'hui.
Ça fait un moment qu'on se connaît. Enfin, moi, je le connais depuis plus longtemps. Mais voilà, il est venu en Nouvelle-Calédonie quand j'étais plus jeune, sur un meeting. Et voilà, pour moi, c'était un des plus beaux nageurs.
Le Calédonien Maxime Grousset, qui de son côté a remporté sa demi-finale du 100 mètres papillon, 50 secondes 41 centièmes. On rappelle qu'il est champion du monde en titre sur cette distance. Il tentera une nouvelle fois de monter sur le podium final à suivre ce dimanche aux environs de 5h30. Quant à la Calédonienne Emma Terebo, elle devrait être en lice sur le relais 4 fois 100 mètres 4 nages. Autre sensation du jour dans ces Jeux Olympiques, cette fois en judo, lui aussi est entré un peu plus dans l'histoire. Teddy Riner a décroché son troisième sacre olympique chez les plus de 100 kilos sur un dernier hippon face au sud-coréen Kim Min-jong en finale. Le colosse guadeloupéen a une nouvelle fois gravi l'Olympe.
J'aurais pas imaginé. On a beau travailler dur, les journées de compétition c'est toujours particulier. Et c'est vrai qu'avec un public comme ça, la famille qui est là, tout le staff qui a été présent à mes côtés pendant ces 3 ans et demi, c'est quelque chose d'exceptionnel, ça fait plaisir. Je le voulais. Donc je suis hyper, hyper heureux, hyper content d'avoir réalisé ça. Et je vais prendre le temps de bien la fêter celle-ci. Il n'y a jamais rien de facile, jamais rien de facile. On le sait, dans la vie de tous les jours, c'est comme ça, il faut se dépasser, il faut puiser dans ses ressources pour obtenir ce qu'on veut. Et aujourd'hui, c'est chose faite.
Et voilà pour la réaction de Teddy Riner, qui compte notamment dans son équipe le Calédonien Laurent Kaléja. Il est devenu le judoka le plus titré de l'histoire des Jeux Olympiques, avec désormais un total de 6 médailles. Teddy Riner sera encore engagé dans le tournoi par équipe. Allez, encore un exploit aujourd'hui à Paris, cette fois en BMX, et c'est un triplé sur l'épreuve de la race. 3 coureurs français engagés, les 3 sur le podium. C'est Joris Daudet qui s'est imposé à l'arrivée sur ce podium 100% tricolore. On écoute le vainqueur du jour.
On en avait rêvé, on savait qu'on pouvait le faire et je pense que malheureusement on n'a pas réussi à le faire les autres années, mais aujourd'hui on avait à cœur de le faire et on savait qu'on avait tous travaillé pour ça et voilà. Un rêve qui devient réalité à la maison et c'est énorme.
Voilà pour cette journée et son lot de sensations sous les yeux du président de la République, hein, Emmanuel Macron. Les épreuves continuent en ce moment même. À noter qu'en sport collectif, les handballeurs français ont battu l'Argentine sur le score de 28-21. En volley, les Bleus se sont en revanche inclinés en match de groupe contre la Slovénie 3-7-2. En basket, les Bleus affrontent en ce moment même l'Allemagne. En football, l'équipe de France masculine joue en ce moment même face à l'Argentine. C'est un quart de finale cette fois. À la mi-temps, les tricolores menaient 1-0. Alors la journée de compétition donc n'est pas terminée, mais pour le moment la France est deuxième du tableau des médailles avec désormais 11 sacres sur 36 médailles. Le camp tricolore arrive juste derrière la Chine qui compte 13 médailles d'or sur ses 30 médailles et l'Australie figure en 3e position.
C'était les pages spéciales des Jeux Olympiques sur RRB avec la Banque de Nouvelle-Calédonie, partenaire premium de Paris 2024.
Et on retrouve maintenant notre jeu spécial JO de mémoire de jeu.
De mémoire de jeu avec les stations chez les Pacifiques.
Avec votre carte fidélité, toujours des remises sur le carburant et plein d'autres avantages.
Deux mémoires de jeu pour gagner chaque jour un bon carburant de 5000 francs grâce à notre partenaire. Chaque jour dans le journal du matin et celui de la mi-journée, nous vous posons une question sur l'histoire des Jeux Olympiques et ceux qui en ont écrit la légende. Vous envoyez votre réponse au 3146 jusqu'à 17h, qui est l'heure du tirage au sort. Et dans le journal du soir, vous aurez la réponse à la question du jour et bien sûr, le nom du gagnant. Voici notre question. Les coureurs de fond finlandais ont souvent brillé lors des Jeux Olympiques. Parmi les noms suivants, lequel a obtenu 9 médailles d'or? Si c'est Lasse Virenne, vous tapez JO1. Si c'est Hannes Kolehmainen, vous tapez JO2. Et si c'est Paavo Nurmi, vous tapez JO3 et vous envoyez votre réponse au 3146. Voilà, vous avez donc jusqu'à 17h pour envoyer votre réponse. C'est l'heure où aura lieu le tirage au sort parmi les bonnes réponses. Le gagnant remporte, je vous le rappelle, un bon d'essence de 5000 francs offert par notre partenaire.
Dans vos stations Shell et Pacifique, gagnez 3 Toyota Hilux, 730 cartes de carburant à 15 000 francs et profitez tous les jours de nos offres fidélité et des bons plans en magasin. Rendez-vous vite dans vos stations Shell et Pacifique et n'oubliez pas votre carte de fidélité.
Et dans le reste de l'actualité sportive, Mickaël, on parle sport mécanique.
Ouais, le championnat du monde des rallyes fait étape en Finlande. Le local de l'épreuve, Kalle Rovanperä, mène la danse après les 10 premières spéciales. Le pilote Toyota est en tête devant le gallois Elfyn Evans et le français Sébastien Ogier. Et puis en MotoGP, le rendez-vous du week-end, c'est le Grand Prix de Grande-Bretagne. L'Espagnol Jorge Martin a dominé les essais libres. Côté français, Fabio Quartararo s'est classé 16e, Johan Zarco 17e. Les deux tricolores devront passer par les repêchages. Qualification à suivre ce soir avant la sprint race. La course sera demain soir.
Et puis un coup d'œil à l'actualité sportive en Calédonie.
Il y aura de la voile avec la 5e étape du challenge J70 organisée par le CNC au large de la baie des Citrons. Et côté sport de raquette, les phases finales ce week-end également du championnat territorial de padel. Les finales auront lieu demain après-midi.
Merci beaucoup Mickaël. Il est 7h31, c'est presque la fin de ce journal. Nous allons maintenant passer à la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et la météo, c'est avec vous, Nicolas. Vous avez peut-être des bonnes nouvelles à nous annoncer?
Oui. La météo est belle. Ce matin, retour d'un temps bien ensoleillé. Quelques nuages et de rares averses pourront circuler sur l'ouest et les loyautés. Le vent de secteur sud s'établira souvent entre 10 et 15 nœuds, parfois moins sur l'est. Cet après-midi, le large soleil persistera, même si quelques gouttes seront possibles sur le relief. Le vent de secteur sud se maintiendra souvent entre 10 et 15 nœuds, parfois plus sur la pointe nord. Les températures maximales seront et inférieure au normal, souvent comprise entre 22 et 24 degrés, Isabelle.
Merci beaucoup, Nicolas, pour la météo et pour la technique. 7h32, c'est la fin de ce journal.